Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. La gratuité de l'enseignement primaire dans les écoles publiques et certaines écoles conventionnées a permis à de nombreux enfants congolais de suivre l'enseignement de base, initié en 2019 conformément à la Constitution congolaise. La matérialisation de cette réforme par le chef de l'État Félix Tshisekedi garantit la gratuité de l'enseignement de base en RDC pour certains spécialistes du secteur de l'éducation. Au moins 30% d'écoles sont du secteur public et 70%, ou si vous voulez 70%, du secteur privé. Grâce à cette gratuité, l'État assume certaines charges qui revenaient depuis plusieurs années aux parents. Mais il est à noter que face à la déperdition scolaire et aux difficultés de scolarisation de nombreux enfants à cause du coût social de la vie, bien avant la matérialisation de cette réforme de la gratuité de l'enseignement, il y a des associations à l'exemple de la communauté des aigles, dit-on, de la faim pour les œuvres socio-éducatives au Congo qui se sont lancées dans le secteur de l'éducation en assurant gratuitement l'enseignement de base dans les écoles relevant de leur communauté. Cette belle regorge aujourd'hui plusieurs écoles à travers les pays, mais le problème est que ces écoles fonctionnent sans arrêté ministériel, ce qui ne leur permet pas de bénéficier de subventions de l'État et de travailler dans des conditions légales. Que pensez-vous de la gratuité de l'enseignement de base dans le secteur privé qui doit faire l'État congolais pour un meilleur accompagnement de ces initiatives privées? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi réagir en direct en composant le 081 890 63 30 ou les 081 890 49 69. Jean-Noël Mokondo est à la mise en onde. Blechina assure la réalisation et la coordination. Au micro, c'est Marcel Ngombombala. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous de ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de l'interview.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience qu'il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Merci de rester fidèle au programme de Radio Capi. Merci d'être nombreux à suivre ce nouveau numéro de Paroles aux auditeurs. Vous êtes déjà nombreux à avoir réagi sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs également. Comme chaque fois, vous êtes déjà aussi inscrits pour participer. Nous vous disons merci. Et pour commenter ces sujets sur la gratuité de l'enseignement, particulièrement pour ce qui concerne le secteur de l'éducation, pour ce qui est des écoles privées, avec des écoles qui fonctionnent, où il y a déjà cette gratuité depuis plusieurs années, mais malheureusement, ces écoles, notamment de la communauté des aigles, dit-on, de la faim pour les œuvres socio-éducatives au Congo, ne sont pas à notre fonction, je l'ai dit, sans arrêter à ministériel, ce qui ne leur permet pas de bénéficier de subventions de l'État et de travailler dans les conditions légales. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Charles Chivueta Mushindikai, il est représentant légal de la communauté des aigles du Messaï du temps de la faim pour les œuvres socio-éducatives au Congo. Charles Chivueta Mushindikai, bonjour, soyez le bienvenu dans ce studio.
Bonjour, cher journaliste Marcel Ngombo.
Voilà.
Nous sommes très ravis d'être aujourd'hui votre invité pour animer cette émission et surtout apporter de l'éclairage par rapport à ce que votre sujet qui parle de la gratuité de l'enseignement, ce qui est une grande réforme et surtout une grande réalisation dans le mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que quand on parle de la gratuité, parfois beaucoup déjà ne comprennent pas la portée de cette mesure présidentielle. D'ailleurs,
parce que déjà à l'époque, pour certains, cette mesure, c'est vrai, c'est la Constitution qui prévoit cela, de garantir la qualité de l'enseignement, mais et on s'est dit que ça s'est passé sans préparation, il n'y avait pas suffisamment d'écoles à travers le pays, et il y avait également ces problèmes avec les enseignants qui n'étaient pas bien payés. Mais le plus important est que, avant la mise en œuvre de cette réforme, la matérialisation par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vous, au niveau de votre communauté, vous avez déjà commencé à, en tout cas, essayer de voir comment donner gratuitement, surtout l'enseignement, des bases aux enfants. Et au sein de votre communauté, vous avez déjà plusieurs écoles à travers le pays. Et même, vous avez des difficultés simplement parce que ces écoles fonctionnent sans arrêté ministériel et vous ne savez pas comment bénéficier des subventions de l'État.
Oui, vous avez totalement raison en évoquant tout ce que vous venez de dire. Mais en fait, notre communauté a vu jour avec l'avènement de son Excellence Monsieur le Président de la République à la magistrature suprême. Parce que, comme vous le savez, à son temps, la gratuité, c'est d'ailleurs quelque chose qui est consacré à son article dans notre Constitution, dans son article 43, où il n'y a pas que la gratuité. Il faut aussi évoquer que cette gratuité, dans son premier alinéa, c'est... l'obligation, on dit que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Donc il y a deux termes qu'il faut évoquer dans cela. Mais souvent nous parlons plus de la gratuité, mais sans mettre l'accent sur l'obligation de chaque enfant de se retrouver à l'école. Mais pour y arriver, il faut que l'État, qui est le pouvoir organisateur, puisse prendre des dispositions adéquates. De sorte que, avec la démographie aujourd'hui, vous trouverez que dans un quartier où on avait peut-être une seule école ou deux écoles, vu la démographie que nous avons aujourd'hui, on peut peut-être dire donc qu'on ajoute 2, 3, 4 écoles, qu'on crée d'autres écoles pour prendre en charge effectivement les enfants qui sont en âge d'être scolarisés, bien sûr, à l'école primaire. Et pas plus tard qu'hier ou avant-hier, lorsque son Excellence, Monsieur le Président, a reçu les jeunes entrepreneurs, il a insisté sur cette mesure de la gratuité. Il a même promis que, pour moi, on ne va pas s'arrêter seulement au niveau primaire. Mais par contre, nous devons aller même jusqu'aux humanités, au secondaire, en sorte que ceux-là qui ont eu la chance de finir l'école primaire, mais sans accéder au secondaire, ils peuvent bien y aller. C'est pour dire que c'est un processus que nous devons accompagner. Raison pour laquelle, lorsque, en 2020, nous avons réfléchi, parce que dès son entame de son mandat, la gratuité a été mise en place, nous avons compris qu'il y avait une difficulté. Alors cette difficulté, c'est laquelle? Comment? Parce qu'on avait trouvé une certaine non-viabilité de certaines classes. Pourquoi? Parce que dans une classe, vous trouverez première année primaire, vous avez 80 élèves, 60, 70, voire plus même. Alors on a compris qu'il faut procéder par créer d'autres écoles pour accompagner cette mesure.
Et dans le secteur privé, bien entendu.
Bon,
de créer d'autres écoles, il y a les secteurs publics de l'État, mais également les secteurs privés. Et vous, c'est dans le cadre du secteur privé.
Au niveau de la création des écoles, si pas, nous avons plusieurs types d'écoles.
Oui.
Nous avons les écoles qui sont créées et gérées directement par l'État. Et nous avons les écoles conventionnées, c'est-à-dire l'État est en partenariat avec une congrégation X, telle que les catholiques, protestants et
exactement,
nous autres.
Oui.
Là, c'est aussi ça. Nous avons cette catégorie d'écoles, mais nous avons aussi des écoles purement privées, qui accompagne bien sûr le gouvernement dans cela. Alors, nous étant aussi experts de ce secteur, nous nous sommes dit, pourquoi croiser les bras? Parce que la mesure prise par son Excellence, est-ce qu'il y a une mesure constitutionnelle, est très capitale. On se lance dans la danse, on crée des écoles. C'est comme ça que cette communauté a vu jour. Mais la création d'une école, il y a des principes. Pour créer une école et faire fonctionner cette école, en principe, c'est on commence par faire la demande au niveau du patron de la sous-province éducationnelle, qui est, que nous appelons communément sous-proved, celui-là vous donne l'autorisation de fonctionner, et il y a des enquêtes qui vont passer de viabilité, gauche-droite, et le rapport va remonter au niveau de la province, jusqu'au niveau national, jusqu'à l'octroi ou l'obtention de l'arrêté pour cette école-là. Mais ici, nous sommes maintenant une communauté qui a de grandes ambitions, parce que le champ où nous devons œuvrer est vaste. Est-ce que nous allons nous limiter à une, deux, trois écoles? Non.
Mais vous en êtes déjà aujourd'hui à combien d'écoles?
Nous sommes à près de 6000 écoles.
À travers tous les pays?
À travers tous les pays, parce que nous sommes au Maniema, avec pas moins de 600 écoles. Nous sommes au Grand Bandundu, nous sommes à l'espace Kasaï, nous avons des écoles à l'Équateur, et puis des écoles au Congo central.
Donc vous êtes déjà lancé dans ce secteur avant 2020, parce que comment on peut avoir autant d'écoles quand vous dites que la communauté n'a commencé qu'en 2020?
Mais vous savez, lorsque un technicien planifie quelque chose, quand on s'y connaît dans un domaine, je crois bien que c'était une des réflexions que nous avons mûries avec tant d'experts pour que nous puissions arriver à cette réalisation. Et comme vous le savez, notre communauté ne pouvait pas aussitôt créer, faire des exploits et autres, mais nous avons reçu les conseils des autorités des Dinakopé, aujourd'hui Sekopé qu'on appelait autrefois, qui nous ont dit, vous voyez avec la création et tout ce que vous avez comme école, la procédure, vous devez avoir toute la documentation possible, bien sûr avec l'aide du secrétariat général, c'est-à-dire vous devez avoir les statuts, bien sûr, les légaliser, obtenir l'avis favorable de l'un des ministères selon vos objectifs et revenir au ministère de la Justice pour obtenir la personnalité juridique. Et avec cette obtention de la personnalité juridique, vous allez vous adresser au ministère de l'EPST pour l'obtention du mandat de gestion. C'est-à-dire, vous devenez des partenaires officiels et connus par l'État pour traiter avec l'État directement. Mais aussi longtemps que les documents traînent, nous allons vous prodiguer des conseils ou nous vous conseillons d'entrer en contact avec une communauté sœur qui, elle, a déjà tous les documents en ordre, notamment la personnalité juridique, le mandat de gestion. Et c'est au travers de cette communauté que vos écoles peuvent être déjà mécanisées, parce que cette communauté a déjà, c'est la quasi d'ailleurs, dont le siège est à Mossango. Je salue en passant de mon cher collègue Papa Célestin Kasongo, le révérend des adventistes du 7e jour indépendant, que nous appelons Kasi Arsik. C'est ainsi que nos écoles aujourd'hui fonctionnent sous le label de la Kasi, parce que la Kasi a déjà tous les documents possibles. Et pendant que nous parlons, nous, de notre côté, nous avons déjà tout le nécessaire. Il nous reste maintenant que l'obtention des mandats de gestion.
Alors, c'est bien clair. Alors, les grands problèmes déjà dans ces écoles, en tout cas, vous avez essayé de voir comment aider les ménages, parce qu'on le sait, il y a beaucoup, il y a certaines charges au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles qui ont été prises, en tout cas, depuis plusieurs années, c'était les parents qui devaient supporter. Et avec la gratuité, on a permis à beaucoup d'enfants d'aller à l'école. On a permis également aux parents, en tout cas, d'alléger certaines charges. Et déjà, vous assurez cette gratuité dans vos écoles bien avant. Mais les grands problèmes, vous fonctionnez sans arrêté ministériel.
Exactement. C'est là où il y a un problème. Parce que j'ai fait le parallélisme, si pas la comparaison, avec l'intervention de l'événement qui s'est passé où le chef de l'État a reçu dans son chapiteau les jeunes entrepreneurs, vous comprendrez que on a créé, on a mis les institutions en place pour accompagner cette mesure, pour accompagner cette révolution, afin d'obtenir des millionnaires de demain. Mais à ce qui nous concerne, nous, particulièrement des confessions religieuses, s'il faut le dire ainsi, les ONG et tant d'autres structures qui sont lancées dans le secteur de l'éducation, c'est l'accompagnement de l'État par rapport à ce que nous faisons comme travail. Vous savez, la gratuité a son temps. Ça a été dit que la ville de Lubumbashi et Kinshasa étaient concernées pour expérimenter cette gratuité. Mais ça n'a jamais été effectif. Et d'ailleurs, à l'intérieur, que ce soit aujourd'hui ou par le passé, cette gratuité, ça, vigeur, vous trouverez qu'on payait d'une manière dérisoire parce que c'est une bouteille d'huile qu'on vient vous donner, une poule, allez-y comprendre. Et aujourd'hui, la gratuité dans nos écoles dont je suis responsable, à travers, à l'intérieur du pays, bien entendu, on ne paye presque plus, on ne paye presque rien.
Il n'y a que aux et les enseignants, vous ne les payez pas non plus.
Mais vous en faites, mais comment vous allez payer un enseignant? Et c'est là où nous pensons que dans ce pays, il y a deux vrais patriotes. Un militaire et un enseignant.
Voilà, on revient à vous, Charles Tivueta Mouchindikayi. On va tourner vers le standard, parce qu'il y a déjà de réactions, des intervenants qui voudraient bien intervenir par rapport à ce sujet. Si vous êtes en train de nous suivre, bienvenue, si vous venez de nous joindre, j'allais dire, sur la fréquence de la paix, bienvenue dans ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Si vous êtes intéressé, vous voulez intervenir, composez les 081-890-6330, le 081-890-4969.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience. Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ce pays n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Thomas nous appelle depuis Bounia. Bonjour Thomas.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Merci. On vous écoute, Thomas.
Oui, d'abord, je salue l'initiative de l'invité, tout ce qu'il a évoqué, et je salue ça. Je salue également la matérialisation du gouvernement, parce que nous l'ignorons parmi tous les régimes qui ont eu à succéder dans notre pays, c'est pratiquement ce régime qui a eu à matérialiser la gratuité, si vous voulez, de l'enseignement. Et cela est conformément à la constitution de notre pays. Mais, monsieur le journaliste, il y a bien même qu'il y a la gratuité de base dans les écoles publiques officielles de l'État, mais il y a des problèmes qui se posent. Notamment les problèmes de prise en charge des enseignants. C'est bien la gratuité, mais comment le gouvernement arrive à gérer la situation des enseignants? C'est là où ça fait notre crainte. Vous voyez, avec l'avènement de la gratuité de l'enseignant, l'effectif des écoliers a même triplé dans des écoles. Dans des écoles, vous passez, vous trouvez. Il y a même 90 élèves, 90 écoliers. Et si l'enseignant n'est pas bien pris en charge par le gouvernement, vous voyez que ça peut poser un problème. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement, c'est bon d'instaurer un état de gratuité, mais le gouvernement doit être en mesure de bien assurer la charge ou répondre au cahier de charge des enseignants, parce que l'enseignant ne peut pas enseigner ça pour autant être rémunéré. Comme chez moi ici, je suis à Ville de Bouille. Au site de dépasser ici, les enseignants là ont un arriéré même de 8 mois. Ils disaient tantôt ils vont décréter la grève. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'arrive pas à bien assumer sa responsabilité.
Mais Thomas, Thomas, c'est vrai ce que vous dites. Déjà, cette question a été soulevée hein, lorsqu'on a lancé cette gratuité. Et puis, vous avez tout de même remarqué que le gouvernement essaie tant bien que mal d'essayer d'améliorer les conditions salariales des enseignants. Mais le plus important, dans ce dont on parle aujourd'hui, c'est communautés qui essayent d'appuyer également l'État pour ce qui est de l'enseignement gratuit. Mais malheureusement, vous avez le cas de la communauté, je retrouve rapidement le nom, de la communauté des aigles, dit-on, de la faim pour les œuvres socio-éducatives au Congo, dont nous avons l'invité, le représentant légal avec nous ici, qui essaie d'appuyer, en tout cas depuis quelques années, l'État dans ce qui est gratuité. Mais malheureusement, les écoles fonctionnent sans arrêté ministériel, ce qui ne leur permet pas, en tout cas, de bénéficier de certaines subventions de l'État. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Je pense que tout au début, j'avais encouragé cette initiative de ce que vous venez de soulever ici. J'ai appuyé ça, mais je pense que c'est nous quand même. Nous, on n'a pas encore bénéficié de cette initiative, mais prochainement, je pense, ça peut se faire. Mais comme maintenant, ils n'ont pas encore eu une personnalité juridique, je demande à ce qu'ils puissent faire seulement
la communauté a bel et bien personnalité juridique. C'est plutôt les écoles qui fonctionnent sans arrêté ministériel. Voilà, apparemment, Thomas n'est plus en ligne. On va se rendre à Idjoui, à l'île d'Idjoui, dans le sud Kivu, pour accorder la parole au docteur Bolingo Mikael. Bonjour, docteur.
Bonjour, très cher Radio Kati. Je vous appelle à partir du sud Kivu, précisément à Idjoui territoire.
Alors, docteur, merci de nous rejoindre, mais j'aimerais qu'on progresse par rapport à cet échange. Vous le savez, on parle de la gratuité de l'enseignement, de base qui a été une bonne chose matérialisée pendant le mandat de ce premier mandat de Félix Tshisekedi. Mais déjà, bien avant, il y a des communautés qui ont tant bien que mal essayé d'assurer également cette gratuité. C'est le cas de la communauté des aigles du temps de la faim pour les œuvres socio-éducatives au Congo. Mais malheureusement, ces écoles fonctionnent sans arrêté ministériel et ne peuvent pas bénéficier de subventions de l'État. Alors vous, comment pensez-vous qui doit faire l'État, en tout cas, pour appuyer ces écoles?
Ben, merci beaucoup. Moi, je considère la Radio Kati comme une deuxième assemblée nationale où la population a quand même le moment de s'exprimer librement sans aucun problème, sans arrière-pensée. Alors, pour le cas précisément du territoire d'Idjoui, la question qui m'a été posée. C'est vrai, le premier intervenant venait de le souligner. Il y a beaucoup d'écoles où je venais même d'échanger avec un directeur d'une école primaire qui réalise toutes les conditions possibles. Mais il se peut que l'école a 15 enseignants, il n'y a que 7 qui sont payés, les autres ne sont pas payés. Alors, vous trouvez qu'il y a un problème. Moi, j'encourage personnellement le chef de l'État pour sa bonne foi. Il est le premier et toute la population est contente de ça. Par ailleurs, il lui fallait vraiment qu'il puisse continuer toujours les démarches pour que la totalité des enseignants puisse être payée. Au-delà de ça, il n'y a pas longtemps, le président a lancé la gratuité de l'enseignement, plutôt la gratuité de l'accouchement. S'il vous plaît, cette fois-ci, le secteur de l'éducation différera du secteur de la santé. J'ai eu à circuler le territoire d'Idjoui à 4 hôpitaux pour 6 groupements. S'il vous plaît, aucun d'un hôpital, aucun de ces 4 hôpitaux a la radiographie. Il y a même 3 hôpitaux n'ont pas l'échographie. Beaucoup d'autres matériels nécessaires. Moi, je suis médecin nécessaire pour qui.
Docteur Bolingo, merci de se soucier de votre profession, mais pour l'instant, peut-être un jour, on pourra revenir sur ça. Vous l'avez dit, Radio Capi, par aux auditeurs, c'est votre magazine des champs citoyens. On reviendra par rapport à la couverture santé universelle pour ce qui est de la gratuité de la maternité et de premiers soins de nourrissons. Mais aujourd'hui, nous restons plus, focalisons-nous plus sur l'enseignement avec ces écoles qui fonctionnent, mais qui n'ont pas d'arrêté ministériel dans le secteur privé et qui ne leur permettent pas de bénéficier de l'aide de l'État. Docteur Bolingo, vous m'entendez?
Oui, oui, je suis à l'écoute.
Justement, je disais, restons dans le cadre du sujet du jour.
C'était juste une parenthèse, bien sûr.
Oui, une parenthèse en fait, qu'on vient vite de refermer. Oui, allez-y.
Oui, je disais que pour ces écoles-là, il y a moyen de les identifier d'abord à travers le ministère du tutelle pour qu'on puisse voir si réellement sont des écoles viables. Par là, maintenant, l'État peut s'occuper de... Parce que vous allez trouver qu'il y a même des écoles qui réalisent toutes les conditions logiques. Mais jusqu'à présent, les enseignants et autres conditions ne sont pas respectées. C'est ça ce que j'avais comme contribution. Mais dans le secteur de l'éducation, vraiment, il y a beaucoup d'efforts à fournir. Et moi, personnellement, j'encourage et je félicite le président de la République pour ses soucis. Mais il y a encore à travailler. Et on voudrait quand même que le secteur de l'enseignement puisse aller dans chaque territoire, dans nos 28 provinces pour qu'on puisse quand même identifier tous ces problèmes afin de trouver une solution. C'est ce que j'avais en termes de contribution.
Merci, Dr. Bolingo Mikael, depuis Idjoui, dans le sud Kivu. On va rester dans cette même province, mais on se déplace du côté de Bukavu pour accorder la parole à Emina Mwanda. Bonjour, Emina Mwanda.
Oui, allons, monsieur, Marcel, bonjour à tout le monde et merci encore de m'avoir accordé la parole.
Allez-y, on vous écoute, Mina Mwanda, vous avez la parole.
Oui, j'encourage l'initiative de cette école et de cette organisation. Vraiment, c'est une très bonne initiative, mais la question pour l'examen nécessite un peu d'attention particulière. Pourquoi moi je dis ça, M. Marcel, créer des écoles ne demande pas grand-chose, mais il faut d'abord voir si la procédure de la création de ces écoles ont été respectées. Si actuellement, aujourd'hui, nous trouvons des écoles qui fonctionnent, ça a été ministériel, communément appelé personnalité juridique, là d'abord c'est grave. Sachant aussi la manière dont ces écoles, selon leur coordination, ce qu'il entre les villes, elles sont de fonctionner, c'est aussi grave. Quand on m'avait posé une question pertinente de la gestion, comment ces écoles sont en train de gérer ces agents, comment ces étudiants sont en train de les payer, je crois que cette école n'était pas
éminent Mwanda, éminent, s'il vous plaît. La communication n'est pas très très claire, mais on a compris. En tout cas, une partie de vos propos, vous avez cherché à savoir si la procédure a été suivie par rapport à la création de ces écoles et surtout, vous avez cherché aussi à savoir comment sont gérées ces écoles parce qu'il n'y a pas subvention de l'État. Merci Emina Mwanda, désolé de vous interrompre pour la communication, comment c'est un peu gâté. On n'arrivait plus à bien vous suivre. Merci d'avoir appelé depuis Bukavu. Obed, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Obed.
Oui, bonjour Monsieur Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et d'emblée, moi je dirais d'abord que dès l'arrivée du président Félix Tshisekedi au sommet de l'État, c'était d'abord la gratuité de l'enseignement comme une action à un impact visible, puisque même aujourd'hui, si on fait un constat sur toutes les émissions bilancielles du quinquennat du président Tshisekedi, c'est un point fort, c'est un point phare, une action phare aujourd'hui qui fait d'ailleurs de lui ce qu'il est aujourd'hui en termes de déclenchement de la gratuité de l'enseignement. Mais moi je pense que c'est une disposition constitutionnelle, un droit garanti par la Constitution d'ailleurs, et qui posait un problème de matérialisation. Alors, puisque c'est cette Constitution que nous avons actuelle et a été conçue au régime du président président honoraire Joseph Kabila, mais qui n'a pas été matérialisée cette disposition suite, moi je pense que aux aléas, aux conditions que la gratuité en recommande. Mais dès l'entrée du président Tshisekedi, c'était la matérialité. Moi, je pense que c'était une très, très bonne chose, puisque aujourd'hui, les avantages que la gratuité a apporté dans le secteur de l'enseignement, on peut que saluer, hein, et voilà. Donc, même quand cela ne tient, moi, je pense aussi que j'ai un avis contraire. L'avis contraire, je pense que cette décision a été prise d'une manière prompte. Et puisqu'il
Obed, on a plusieurs fois, en tout cas, polémiqué par rapport à la matérialisation de ces gratuités de l'enseignement. Mais aujourd'hui, on est en train d'évoluer. On parle plutôt de ces écoles qui existent, qui relèvent de certaines communautés. Je parlais de cette communauté des temps, la communauté des aigles du temps de la faim pour les aigles socio-éducatives au Congo, qui sont également dans le secteur de l'enseignement. Mais malheureusement, avec vous avez suivi l'invité, il y a près de 6000 écoles à travers le pays, mais malheureusement, ces écoles fonctionnent sans arrêté ministériel et ne bénéficient donc pas de l'aide de l'État congolais. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que doit faire l'État congolais pour accompagner ces écoles et puis faire en sorte que ces écoles qui sont également déjà dans la gratuité de l'enseignement de base puissent fonctionner dans de bonnes conditions?
Oui, justement, bon, je voulais d'ailleurs chuter sur ça.
Oui.
Et moi je pense que les écoles aujourd'hui fonctionnaient sans arrêté ministériel et ne bénéficient d'aucune subvention de l'État. Bon, d'un côté, je peux dire que c'est une aberration, ou de l'autre, je peux dire que c'est le manque justement donc ça veut dire que la mise des conditions que je venais d'ailleurs de soulever, c'est ce qui a posé peut-être problème. Mais je pense que dans la mesure du possible, il serait mieux que le gouvernement continue à travailler sur ces secteurs, réunir toutes les conditions possibles pour la vraie matérialité d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans ces écoles d'ailleurs, si je m'abuse, il y a quelques frais qui sont payés par les parents pour essayer aussi, voilà, de subvenir aux besoins techniques d'ailleurs de ces écoles. Et voilà, l'État doit en tout cas répondre aux désiderata techniques et respecter les accords.
Merci.
Qui existent entre justement les syndicalistes de ces secteurs et pour voir voilà la chose évoluer à bon train.
Merci Obed de Kinshasa. Je reviens à notre invité Charles Chivueta Mouche Indikaï. Vous avez suivi les uns les autres. Il y a ceux qui ont cherché à savoir est-ce que déjà au niveau comment vous gérez ces écoles et puis ces écoles, d'après vous, elles sont vraiment viables?
Merci. Nous avons suivi attentivement les intervenants. Ils sont quatre. Le premier évoque la prise en charge des enseignants. Vous savez, nous devons retenir une chose. L'État ne peut pas prendre en charge un enseignant lorsque toute la procédure n'a pas été respectée. Ça, c'est la première chose. Ce n'est pas pour rien que nous sommes là pour cette démarche. C'est-à-dire, l'enseignant en question doit d'abord se retrouver dans une école qui détient un bon arrêté. Ça, c'est la première chose. Et cet arrêté-là qui l'offre, c'est le gouvernement de pouvoir organisateur au travers le ministère de l'EPST. Et lorsque votre école est prise en charge, si pas vous avez un bon arrêté, il y a des procédures maintenant, les enquêtes de viabilité et autres. D'ailleurs, avant d'obtenir même l'arrêté, on suppose que tous les services de l'État depuis la sous-province éducationnelle ont attesté et confirmé que cette école est viable. On peut avancer et prendre en charge les enseignants. Là, c'est une nécessité, mais à ne pas oublier que dans la prise en charge, ce n'est pas d'une manière isolée. Le gouvernement a sa politique de prise en charge des enseignants. Ça peut être trimestriel, ça peut être semestriel ou annuel. On dit non, maintenant nous sommes en mesure, vu l'enveloppe salariale, en mesure de prendre en charge peut-être 30 000 agents. À ce moment-là, on mécanise 30 000 agents pour les prendre en charge. On ne peut pas mécaniser les gens lorsque on regarde dans la caisse de l'État qu'il n'y a rien. Ça, c'est. Mais que faire? L'État n'a pas d'excuses à ce moment-là. Parce que c'est lui qui est le pouvoir organisateur. Il doit s'assurer par rapport à cette démarche. Notre deuxième intervenant, ici, il a rencontré pratiquement les soucis que j'ai toujours eu. D'ailleurs, même ce matin, j'ai parlé avec mon enseignant de 6e primaire, aujourd'hui directeur, où vous trouverez dans une école, vous avez 10 enseignants, mais 7 sont pris en charge, mais les 3 là ne sont pas pris en charge. J'informe au docteur Bolingo que, je m'excuse, dans le territoire de Luisa, plus particulièrement secteur de Kabelekessé, dans le groupement de Kavoïta, nous avons une école. Moi, j'ai commencé l'école primaire dans ce village. J'ai commencé mon école primaire dans ce village, à l'Épée Diena. Cette école avait une succursale de l'autre côté de la grande rivière Luita, où il n'y avait que 3 classes. Et vous pouvez vous imaginer que on a mécanisé, c'est-à-dire cette école est devenue autonome. Ce qui était succursale est devenu une école autonome, aujourd'hui avec 6 portes. Et mon enseignant de 6e primaire, qui est devenu directeur de l'autre côté, certainement avec le principe de l'EPST, il a laissé son salaire, il est allé pour devenir directeur là-bas. Ça fait près de 50 ans qu'il a perdu son salaire, il est directeur. Il n'y a que 3 à 4 enseignants qui sont payés.
Vous parlez de combien d'années?
Près de 50 ans, j'ai dit.
Un demi-siècle.
Un demi-siècle.
C'est pas possible. Et pendant tout ce temps, des démarches ont été menées, mais n'ont pas abouti.
Mais c'est une école catholique, d'abord, quand je vous dis, c'est une école catholique. Et depuis les années 80 où nous sommes passés dans cette école a existé avant même que nous, qu'on puisse l'être d'ailleurs. Oui. Ça existait. Mais vous trouverez qu'on peut poser la question aux autorités de l'EPST au niveau local. Il y a toujours. Les contrôles se succèdent. Des années en années. Et vous trouverez que vous avez 3-4 agents là-bas qui ne sont pas pris en charge, mais une école est déjà autonome. Aujourd'hui, ça s'appelle EP Luiseka. Tandis que Dieda est resté autonome, Luiseka autonome. Allez-y, comprendre.
Et plus de 50 ans, la personne n'est pas allée à la retraite. C'est quand même compliqué à comprendre ça.
J'ai dit par rapport à l'existence de l'école.
Ah, de l'école, ok. Il fallait bien comprendre. Ça, c'est très bien, il fallait qu'on puisse bien comprendre, voilà.
Parce que,
Par rapport à l'école. Ah, tout à fait, là, c'est bien clair.
Il a fini avec nous, la 6e primaire, c'est en 89-90.
Oui.
C'est là où nous avons fini avec lui. Et c'est les années après qu'il va devenir directeur dans cette école. Et on a même changé la dénomination de l'école. Et des cas comme ça sont nombreux, même ici à Kinshasa. Vous trouverez ça. Mais attention, il y a aussi le problème, on peut toutefois condamner aussi l'État, le gouvernement, mais vous trouverez que la loi dit, pour être engagé, pris en charge par l'État, il faut avoir au plus 35 ans d'abord, pour être recruté à l'EPST comme enseignant. Mais il y en a d'autres qui vous viennent à 45 ans, 50 ans, 60 ans même. Là, il y a un problème. On risque de vilipender le gouvernement, on risque de tout faire. Mais parfois, dans la procédure, on trouve que l'âge pose problème pour que ces derniers soient pris en charge. Mais maintenant, quand nous regardons la réalité en face, on se rend compte que... Mais si on ne peut pas prendre celui qui a 40 ans, 45 ans, 50 ans, mais à 35 ans jusqu'à 25 ans, 18 ans, il n'y a personne pour jouer ce rôle-là. C'est là où une mesure exceptionnelle doit être prise.
À 35 ans, pour faire quoi? L'État prévoit 35 ans pour avoir...
Pour être engagé. À partir de 18 ans, vous êtes déjà majeur. Oui. Vous pouvez accéder à un poste, à l'EPST. Mais dépasser 35 ans d'âge, vous ne pouvez plus être recruté, en principe, selon la loi.
Oui.
En principe. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre qu'avec l'avènement même des ISP qui sont devenus des universités aujourd'hui avec d'autres objectifs, ça pose un problème parce que les vrais enseignants qualifiés ne se laissent plus voir.
Mais il avait aussi cette question sur ces écoles, toutes ces écoles dont vous parlez, de votre communauté qui n'ont pas d'arrêté ministériel, et ce sont des écoles viables.
Exactement. Ce sont des écoles viables parce qu'on peut poser la question à l'autorité attitrée au niveau des provinces éducationnelles. Vous trouverez que ce sont des écoles qui présentent même les candidats à l'examen d'État. Mais là, le problème, c'est lequel? La communauté peut bien être jeune, C'est vrai, depuis 2020-2021, où nous avons les documents et on avance avec la procédure, mais vous trouverez que par manque d'arrêté, il y a des écoles qui sont devenues pratiquement, qui font la prostitution. Il suffit qu'ils apprennent que telle communauté a obtenu un arrêté, ils quittent là où elles étaient pour aller s'affilier de l'autre côté. Donc ça devient le jeu de ping-pong. Vous étiez peut-être, je ne sais pas, quasi, vous devenez Kamosek, vous étiez Kamosek, vous devenez... tout ça à la recherche d'un document officiel qui va les conduire jusqu'à la mécanisation. Donc ça, c'est un problème qui est capital. Alors, notre intervenant autre a parlé de la procédure. Oui, la procédure est suivie. On ne peut pas... D'ailleurs, comment une école peut exister, réunir les enfants, les enseignants, sans que la procédure ne puisse être respectée? Pourquoi? Parce qu'il y a les autorités au niveau de la sous-province éducationnelle, sous-province, les inspoules primaires, secondaires, vous avez les antennes sécopées, ils font leur travail et le rapport remonte. Et nous avons des mises en place actualisées, attestées par l'autorité au niveau de la base. Ce qui veut dire que ces écoles-là sont viables.
Mais pourquoi ça bloque? Pourquoi jusque-là il n'y a pas d'arrêté ministériel?
Oui, il y a une procédure à ce qui nous concerne aujourd'hui. Vous êtes, peut-être c'est une information pour certains, mais d'autres, ils le savent. Lorsque l'ex-ministre, avec beaucoup de respect, Willy Bakonga, dans le 1 plus 4, et que j'ai dit FCC Cash, vous avez trouvé qu'il y a eu, après son départ, c'est long. Parce que nous sommes en collaboration, en contact avec les autorités de l'EPST, il y a eu une prolifération des arrêtés. On a signé des arrêtés à gogo. À tel point que l'État ne pouvait plus savoir exactement lequel, certainement le bon arrêté est déjà dans le système. Vous trouverez dans le système. Mais on a constaté que beaucoup d'arrêtés qui circulaient n'étaient pas dans le système. Donc c'était des faux arrêtés. C'était l'œuvre de qui? Point d'interrogation, le pouvoir organisateur est le seul à connaître ce problème-là. C'est ainsi que beaucoup d'arrêtés et beaucoup d'écoles pendant cette période ont été implantées avec ces soi-disant faux arrêtés. Et le ministre d'ailleurs, Tony Mwaba, son excellence monsieur le ministre Tony Mwaba, dira qu'il fallait, il a même créé une commission pour réévaluer et voir dans quelle mesure on peut facilement apporter la lumière ou si pas récupérer certaines de ces écoles dans ce sens-là.
Voilà, on va poursuivre avec des auditeurs. Nous avons François Okunji qui nous appelle depuis Libo, Augusta, Dienda qui est à Demba et Blessed qui est à Kisangani. On y va avec François Okunji depuis Libo. Bonjour François. François, vous êtes en ligne, vous m'entendez?
Oui, je vous attends. Je disais bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Bonjour, Marcel.
Allez-y, vous avez la parole.
Merci bien. Vous savez, monsieur Marcel, même l'auditeur qui est avec, l'invité qui est avec vous là, doit savoir que le taux des intellectuels dans un État fait partie des critères d'indication d'un État en évolution. Certes, la gratuité a facilité plusieurs enfants à étudier, mais dans des conditions inhumaines. Des fois, dans certaines écoles privées ou étatiques, les enfants sont hors sol, sans tableau, etc. Le gouvernement devrait voter un budget spécial pour subventionner les privés et leur donner les arrêtés de fonctionnement pour les écoles qui en manquent. Je vous savais, monsieur Géolungemo, monsieur Marcel, nous devons encourager certaines écoles privées avec les responsables. Nous sommes à Ilebo, je vais vous donner un exemple. Nous avons les groupes scolaires Sainte-Victorine. C'est une école de la sénatrice Victorine Louessi, privée, mais qui lui-même a pris en charge sur le plan infrastructurel, sur le plan matériel. Mais le gouvernement ne l'appuie pas. Mais au sein de cette école-là, on a organisé, il y a la gratuité au niveau primaire. Là, nous sommes à Ilebo. À Mweka, où j'ai fait 2 ans, nous avons une école dite génie des enfants de M. Étienne Bopé. C'était une école privée, mais dont les conditions sont favorables. Mais vous constaterez ensemble avec moi que dans certaines écoles privées, et même étatiques, les enfants étudient au sol. La gratuité est bonne, mais ça devait être accompagné avec certains mécanismes infrastructurels, matériels, dans ce sens-là. J'ai suivi avec attention particulière votre invité qui dirait que non, le processus de contrôle des arrêtés fiables est en cours, où on est en train de sélectionner. Mais d'abord, quand le ministre Willy Bakong, lui a cité à l'époque des FCC Cash, quand il prenait les arrêtés, il les prenait sur base de quoi? C'est sur base de la mouvance politique, sur base de la satisfaction politique au coma. Je voulais qu'il puisse nous répondre par rapport à cette question-là, M. Marcel.
Bon, de toutes les façons, il pourra peut-être nous dire, notre invité, qu'est-ce qu'il en pense, mais bon, c'est pas lui, hein, vraiment, de répondre à tout cela. Merci François Okumji d'avoir appelé depuis les Bogista. Dienda, vous êtes à Demba. Bonjour Augustin.
Marcel, bonsoir à l'invité de la radio Capi. De la radio Capi.
Allez-y, essayez de vous déplacer en même temps, hein. Essayez de vous déplacer un peu, parce que là, apparemment, je vous entends mal. Essayez de vous déplacer un peu, Augustin, j'espère que c'est fait et ça va marcher cette fois-ci. Allez-y.
Vous m'entendez bien?
Bon, ça va... Mais fermez d'abord votre radio, hein. Vous avez votre radio à allumer, fermez votre radio, je pense que ça ira mieux.
Je vais le crocher. Je pense qu'il y a le fort repos dans les studios.
Allez-y, Augustin, allez-y.
Oui, concernant le sujet du jour, c'est un bon débat. La seule probabilité que le gouvernement actuel a de maîtriser est celle de la gratuité du renseignement. Pourquoi ce système a dit, a facilité à beaucoup d'enfants, de prendre le chemin de l'école. Mais, le gros problème doit se baser sur les meilleures conditions. En ce cas, je dois investir une étape de ma propre cité, la cité des mains. C'est presque beaucoup d'enfants qui vivent sur le sol, avec des conditions bizarres. Le gouvernement a déjà ordonné un très bon système.
Augustin, on a vraiment du mal à vous suivre. Désolé, on a vraiment du mal à vous suivre. On espère que prochainement, ça ira mieux. Merci d'avoir appelé depuis Demba. Blaise Saïdi, vous êtes à Kisangani. Bonjour Blaise.
Merci Marcel, bonjour. Bonjour à notre invité, bonjour aux auditeurs de la radio Kafi.
On vous écoute.
Oui, monsieur Marcel, c'est vrai que notre pays, la RDC, était encore la seule nation qui avait encore des frais scolaires. Mais à l'avènement de Félix Tshisekedi au pouvoir, il a fait appliquer quand même l'article 43 de la Constitution. Mais du moins, la mise en place de la gratuité avait assez de soucis. Donc, vous verrez bien que nous, avec les thèmes de la gratuité au niveau des écoles privées, non. Vous allez lire l'article 43, ou encore les auditeurs, déjà encore... voir l'article 43, le dernier alinéa, qui stipule bien que non, la gratuité, dont l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Donc, ce que nous devions demander au gouvernement congolais, c'est seulement de respecter l'article 23 de la loi cadre, où il y a les droits et les obligations de l'État, notamment la création des établissements publics et l'agrément des écoles privées de l'enseignement national. Donc vous verrez bien que nous, aujourd'hui, il y a plus d'agréments, plus d'arrêtés dans des écoles privées, et ces arrêtés ne sont pas tellement connus par l'excellence, donc par le ministre. Donc vous voyez que non, cette situation reste un peu à désirer, de la manière que depuis l'avènement de la Troisième République, nous avons une prolifération des écoles. Et cette prolifération des écoles fait à ce qu'il y a vraiment baisse des enseignements. Donc les enseignements de 1990 et de l'enseignement aujourd'hui, il y a vraiment un peu de soucis. Donc ce que j'ai développé...
Voilà, là, la communication, c'est Gat Blessaidi depuis Kisangani. On a beaucoup de soucis hein, de ligne... aujourd'hui, bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Merci Blaise Saïdi d'avoir réagi depuis Kisangani. On va prendre le tout dernier auditeur, c'est Faustin Kaimbe qui nous appelle depuis Dibaya. Bonjour Faustin.
Oui, bonjour Radio Kapi.
Alors, rapidement, en une minute, Faustin, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la gratuité de l'enseignement, notamment de ces écoles qui, bien avant la matérialisation de cette réforme, essayent d'aider gratuitement, en tout cas les parents, à ce que leurs enfants puissent en tout cas accéder à l'enseignement de base. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ça, rapidement?
Et en un mot, la gratuité de l'enseignement a échoué. Pourquoi je dis ça? Parce que le ministre a visé seulement et la ville, surtout la ville de Kinshasa et d'autres grandes villes de la RDC. Si vous arrivez au village, vous allez vous-même regretter. Pourquoi j'ai dit cela? Vous trouverez dans un village, un grand village qui compte plus de 1000 enfants, mais qui a une seule école, soit deux écoles seulement, mais qui fonctionne avec de fausses arrêtés. Mais on verra, bon, tantôt les enseignants qui œuvrent dans ces écoles-là, ils sont obligés soit de fermer les écoles, ou les portes des écoles, soit ils fonctionnent mais dans la gratuité, ils ne bénéficient même rien, ni salaire, ni prime. Alors si, supposons si ils fermaient les portes des écoles, alors quelle serait maintenant la vie de ces enfants-là?
Voilà. Voilà, désolé Foster, on est en train de courir derrière les temps, mais pour vous, la gratuité n'a pas vraiment marché comme vous l'aurez souhaité. Vous pensez que c'est plus les centres urbains qui ont été privilégiés. Bon, ça c'est votre avis. En tout cas, merci d'avoir appelé depuis Dibaya. On va conclure avec notre invité Charles Tuvueta. Donc vous pensez qu'il est temps que l'État puisse vraiment se pencher sur cette question. C'est vrai qu'il y a des problèmes pour ceux qui les arrêtaient, mais il leur a sonné pour que l'État puisse bien revoir les écoles viables, les écoles qui travaillent vraiment et dans les normes et vous appuyer dans ce que vous faites. Et vous avez par exemple aussi des écoles à Luisa, vous avez dit.
Oui, exactement. Nous avons pas mal d'écoles à Luisa. Autour des 500 écoles que nous avons implantées.
Qui relèvent de votre communauté.
Exactement, qui sont à Luisa, sous le label de la CASI, communauté des Adventistes du 7e jour indépendant, parce que nous sommes en partenariat avec eux. À ce qui concerne ces écoles, je peux vous assurer que les interventions des uns et des autres sont motivées, mais il y en a d'autres qui veulent bien crucifier le gouvernement, mais écoutez, dans peu de temps que son Excellence est au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons des milliers d'écoles qui sont construites à travers la République, et il faut regarder aussi l'immensité de notre pays. C'est vraiment quelque chose que nous devons soutenir. Est-ce que c'est assez? Nous disons non. Et il faut encore faire plus.
Il faut encore faire plus. Voilà. Mmh. Avec ces mots qu'on va, en tout cas, boucler, hein, cet échange citoyen avec notre invité Charles Tshivueta Mushindikai, représentant légal de la communauté des aigles du message du temps de la fin pour les œuvres socio-éducatives au Congo. Merci d'avoir été notre invité. On espère vous retrouver prochainement.
Merci. Nous sommes très heureux de faire notre passage ici à la Radio Okapi. Je crois que même nos écoles sont en train d'être codifiées déjà pendant que nous vous parlons.
Voilà, fin de ce numéro du magazine Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Jean-Noël Mokondo qui est à la mise en onde, à Blaise Indani qui l'a réalisé et coordonné au micro. C'était Marcel Ngomobala. Au plaisir de vous retrouver dans un autre numéro de votre magazine des champs citoyens. Parole aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.